Je suis honoré de vous rencontrer.
Quelle est votre peur la plus profonde, jeune homme?
Ça vous dérange pas que... J'essaie.
Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris.
D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami.
Salut à tous et bienvenue dans Leviosa Podcast, un podcast où on va échanger sur l'entrepreneuriat, le bien-être au travail et le développement personnel avec nos invités. Comme c'est le premier épisode, je me présente rapidement, je m'appelle Romain, je suis coach agile et je serai donc votre hôte. Dans cet épisode, on reçoit un choco-criminologue, Dimitri Heide, qui conçoit et anime des team building autour de thématiques telles que le vin et le chocolat. Avec lui, on va aborder son parcours, ses activités et sa façon de fonctionner en tant qu'entrepreneur. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer avec Dimitri. Sa compagnie est très agréable et vous allez voir qu'il donne de très bons conseils pour tous les entrepreneurs en devenir ou qui souhaitent le devenir. Allez, bonne écoute!
Aujourd'hui, on est avec Dimitri.
Bonjour.
Dimitri, fondateur de 36 Quai des Arômes, qui a été fondé en 2015, qui est à la base un credo en ligne sur la dégustation de vin. C'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Et qui aujourd'hui a évolué dans une plus un team building pour entreprise. Tu te sers toujours du site, a priori, pour animer tes team building en même temps que toi, ta présence et tes connaissances.
Exactement, ouais, c'est ça.
Était également le fondateur en 2016 de Restons Grappés, qui est un site d'achat groupé de vins sélectionnés.
Ouais.
Je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours en ligne.
C'est plus en ligne, ça a eu un peu moins de succès que 36 Quai des Arômes, mais c'était un beau projet.
Ouais, très beau projet. Moi, je n'ai pas eu malheureusement l'occasion de...
Non, t'as pas commandé.
De commander. Je ne pouvais pas trop à l'époque.
C'est ta faute, on s'est dit. Romain n'a pas commandé, on va mettre la clé sous la porte.
Mais du coup, c'est vrai que je trouvais le concept super intéressant. Et là, moi qui me marie en bientôt, ça aurait...
Alors, je peux pas te les vendre, mais je peux toujours te conseiller sans aucun problème.
On en parlera après. Bon, donc du coup, Dimitri également, dans une autre vie, t'étais contrôleur financier pendant 15 ans.
Ouais.
Et avant d'entreprendre, donc, à coder déjà, t'as appris à coder grâce à nos amis du Wagon qui nous hébergent aujourd'hui. Merci au Wagon Paris, d'ailleurs. Et Édouard Foussier en particulier, qui a permis d'arranger l'utilisation des locaux ici. Et donc, tu as lancé ton activité donc en 2015, après avoir appris à coder.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Tu vas nous expliquer un peu...
Je peux le faire de façon très linéaire. En fait, pour parler de mon ancienne vie, j'ai effectivement 15 ans de contrôle de gestion. Dans l'industrie, donc carte à puce, papeterie, maison d'édition, compteur à gaz. Voilà, c'est des choses très qui peuvent paraître un peu chiantes, mais moi c'était la passion qui me levait le matin, la passion des chiffres, la passion de traduire les chiffres en mots pour aller parler de stratégie et parler de comptabilité aussi. Et finalement, au bout d'un certain temps, les chiffres que je mettais dans des cases, c'était des gens, en fait.
Ouais.
Donc, et c'est ça, c'est le côté un peu lien et perte de sens qui m'a fait bouger, quoi.
Cette impression d'être un peu... de robotiser un peu le côté contrôle financier, d'avoir un impact, mais pas forcément positif, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est qu'il y avait plus de lien avec les gens. Quand une entreprise va bien et que les chiffres sont en éternelle croissance et qu'on arrive à avoir les objectifs, il n'y a jamais rien, de problématique.
D'accord.
Mais quand y a un actionnaire qui est très demandeur, qui a besoin de dividendes, il faut atteindre de plus en plus d'objectifs. Et au bout d'un moment, quand on tire la corde, ça casse. Et quand les gens deviennent des chiffres, des moins 1 dans des tableaux Excel, c'est compliqué d'avoir des échanges humains de qualité.
Ouais, je comprends, c'est un petit côté un peu aliénant de se dire qu'en plus, toi directement, avec ce que tu fais avec la finance, ça a un impact sur des vies.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et ouais, je comprends, c'est pas une situation qui doit être facile.
Ouais, et donc j'ai plus tu perds de confort de personnel. Enfin, c'était pas un confort financier, parce que le confort financier, tu l'as quand t'es cadre dans une société comme ça, dans ce genre de société. C'était un inconfort parce que c'était pas mes valeurs, parce que je perdais la passion. Moi, le matin, je me levais et j'avais plus envie d'y aller. Donc, dans ces cas-là,
faut changer.
Faut arriver à changer, à dire stop. Et puis, quand l'équilibre est en ta défaveur, où tu te dis non, il faut que j'arrête, voilà, il faut que tu penses à d'autres choses à faire.
Non, mais clairement, ça me fait penser, ce que tu dis, ça me fait penser à ce que Steve Jobs disait à son discours, je crois, à Stanford. Il disait, le matin, tous les matins en me levant, je me regarde dans la glace et je me demande si ce que je vais faire aujourd'hui me plaît. Et sinon, on revient trop souvent, c'est qu'il est temps de changer. Et je pense qu'on a tous vécu ça à un moment dans notre vie. Et aujourd'hui, c'est vrai que des fois, économiquement, pour beaucoup de gens, on est obligé de continuer dans la voie qui nous plaît pas, mais...
Ouais, on s'oblige aussi.
Ouais.
On s'oblige parce qu'aujourd'hui, ça fait 4 ans. J'ai pas le même salaire. Merci ma chérie d'ailleurs de supporter mes pérégrinations quotidiennes sur la voie de l'entrepreneuriat. Mais j'ai 2 enfants, 2 trop très beaux enfants et très bien éduqués. Mais la finance, à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne l'obligation. On peut pas être aliéné par une finance. Alors c'est peut-être un peu démagogique, mais...
Mais clairement.
Mais l'argent n'était plus un problème. Je gagnais très bien ma vie, je ne la gagne plus de la même manière. J'ai quand même l'intention de revenir à un bel équilibre, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas et je préfère investir ce que je gagne dans 36K des arômes que de me payer grassement comme avant.
Ouais.
Je me paye, mais pas le même salaire.
Ouais, non, mais je comprends clairement. C'est. Comment dire, c'est. À un moment, en fait, je vois trop souvent ça d'ailleurs chez des amis qui sortent d'école de commerce ou autre, j'ai l'impression que c'est une valeur qui est souvent inculquée en école de commerce, mais il n'y a pas que le salaire, et c'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de gens partent de ces milieux un peu traditionnels de la finance et tout ça. D'ailleurs, on en voit beaucoup ici au wagon. Moi, j'étais choqué quand j'ai fait le wagon de voir le nombre de gens qui venaient de la finance, mais parce qu'en fait, ça déshumanise, et même si tu gagnes très bien ta vie, au bout d'un moment, il n'y a pas que ça. Et de toute façon, l'argent, personnellement, de mon expérience, quand tu te retrouves face à un problème de santé, l'argent, ça vaut plus grand-chose. Il y a des choses plus importantes sur lesquelles tu as envie de passer ta vie, quoi. Clairement.
Non, mais okay. Donc, 2015, décision, enfin, je me dis, il faut que je change. Il y a quelque chose, enfin, il faut que je sorte et... Pas pour redevenir salarié, vraiment pour faire quelque chose qui va me passionner. Et j'ai fait une introspection, je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes ? Ah, bah, t'aimes bien boire. De temps en temps, t'aimes bien le vin, t'aimes bien la dégustation. Alors, pas boire dans le sens alcoolique.
Pas se mettre des mines.
Voilà, c'est ça. Mais dans le sens, j'aime bien la bonne bouffe, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur la dégustation. On va creuser, c'est une passion depuis très longtemps. Donc on va passer un diplôme de dégustation, puis 2, puis 3.
Ça prend combien de temps ça ?
Ça a pris 1 an et demi en tout à étudier.
Tout en gardant ton job à côté
Une partie en gardant mon job. Et puis une autre partie, je me suis consacré à 100% au dernier diplôme que j'ai passé, qui est le WSET, Wine Spirit Education Trust, qui est un diplôme anglo-saxon qui me permettait de garder mon job et puis ma vie de famille, ne pas avoir à se déplacer à Bordeaux, à Mâcon ou ailleurs pour faire un tronc commun. Je pouvais étudier à distance et puis passer le diplôme de dégustation qui m'intéressait. Moi, c'était vraiment purement dégustation. Je voulais pas faire un diplôme d'œnologie où là, l'objectif, c'est d'apprendre à faire du vin. Là, c'était de le déguster, uniquement de le déguster, en comprenant évidemment la production, en comprenant d'où venaient les goûts et les arômes. Donc j'ai trouvé cette formation très flexible et j'en avais besoin. Donc la formation m'a permis de me dire que je pouvais travailler dans le vin, parce que je voulais, mais des fois entre vouloir et pouvoir, il y a une différence. Et là, j'ai confirmé que je pouvais le faire. Et j'ai eu assez rapidement l'idée de créer un jeu de dégustation à mi-chemin entre enquête policière et dégustation de vin.
Pendant que tu étais en formation.
Ouais, pendant que j'étais en formation. Parce que je me suis dit, moi, je peux pousser la porte d'un caviste ou d'une école pour m'asseoir pendant 8 heures, pendant une journée, 2 jours, 3 jours, 5 jours, mais pour apprendre à déguster du vin, mais tout le monde n'est pas prêt à le faire. Les gens, en général, ils aiment bien, ils ont envie d'apprendre, mais au-delà d'une heure, ça les saoule. Donc, donc, et puis l'idée d'avoir quelque chose de ludique, parce que c'est une approche souvent très un peu élitiste, où on va parler avec des mots que la plupart des gens ne comprennent pas, la cuisse, la robe, la complexité. Ça, c'est des termes que tout le monde ne maîtrise pas. Et ce que j'avais envie, c'est d'avoir une approche ludique qui permette d'apprendre des termes qui sont très simples et de ressortir d'un événement avec une connaissance pratique des choses. Et donc, j'ai fait un cahier des charges. Bon, mon côté contrôleur financier fait que c'était très structuré. Il devait y avoir 80 pages avec... donc, c'était le début du prototypage. Hein. J'avais des écrans, j'avais pas mal de choses. C'était très, très poussé, mais même trop poussé avec le recul. Parce que j'étais pas développeur.
Puis tu peux jamais tout prévoir.
Non, évidemment. Évidemment. Et puis, j'étais pas concepteur d'application ni de site, donc... designer un site et faire un cahier des charges, c'est pas inné quoi. Je l'ai envoyé à des agences, à des freelances et j'ai reçu des devis entre 20 000 et 100 000 euros.
Donc, le cas classique, j'ai envie de dire, je crois que enfin moi aussi j'avais fait ça sur une application mobile et oui, à chaque fois on se dit mais c'est pas possible, comment ça peut coûter aussi cher.
Ouais, ouais. Et je comprenais pas. Après coup je comprends, mais à l'époque je comprenais pas. Et j'ai monté ce projet en niant tout ce que j'avais appris en contrôle de gestion, parce que j'ai des plans, j'en ai fait.
Ouais, c'est-à-dire que tu voyais, tes prévisions disaient que c'était...
Je refusais de faire des business plans. Je refusais parce que je savais tellement bien comment on les fait, que je voulais arrêter de mentir et de faire des chiffres pour produire des chiffres, pour aller voir un banquier qui va dire oui, parce que de toute façon, mon dossier est tellement bien bouclé qu'il ne va rien comprendre que derrière, c'est du vent. Moi, je l'ai fait pour d'autres personnes, ça, monter des dossiers pour avoir des prêts, pour rentrer au réseau Entreprendre. Bon, les gars sont rentrés, ils ont fermé au bout de 3 ans, mais ils avaient des jolis tableaux et des jolies prévisions.
Mais ça me rappelle, j'avais la conversation il n'y a pas plus tard que 2 semaines, je pense, avec des consultants, où j'aime bien souvent me battre contre un peu les préjugés, je trouve, de ce monde aussi, de façon générale. Et je trouve que dans l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup, et notamment la nécessité d'avoir un business plan. Et ouais. Tout le monde me soutenait, c'est absolument obligatoire et tout, sinon tu ne sais pas où tu vas et tout, mais je disais, mais... Est-ce que tu sais où tu seras dans 6 mois? Déjà, tu ne sais pas. Et ta boîte, c'est encore plus imprévisible. Tu ne peux pas savoir combien tu arriveras à avoir de clients. C'est juste une supposition d'un monde idéal de ce que tu fais, un business plan. Et je pense qu'un vrai investisseur, en tous les cas, ne se reposerait jamais sur un business plan, mais plutôt sur les compétences d'une équipe et le feeling qu'il a avec.
Ouais, je suis d'accord. Et en fait, moi, l'idée, c'était de shipper. Je voulais shipper, je voulais avoir un produit viable et essayer de le vendre rapidement. Pour tester le marché. Donc j'ai essayé de voir si l'offre pouvait correspondre. J'ai trouvé quelques contacts, mais qui n'avaient pas signé. Donc je me suis dit, il faut vraiment avancer. Et je suis tombé sur le wagon, qui promettait de faire exactement ce que j'avais envie, c'était de comprendre les devis que je recevais pour savoir lequel choisir. J'ai fait le wagon, 9 semaines, tu connais, intense, où tu apprends à coder, donc HTML, CSS, ça va, Ruby, Rails, le projet de fin de wagon. Très cool.
Tu as proposé ton projet ?
Ouais, j'ai proposé 36 quais des arômes et on a sorti un truc qui était sympa, qui est très très loin de la version finale, mais qui était marrante, qui était déjà la base de ce que je propose aujourd'hui.
Un MVP, quoi.
Ouais, voilà, ouais. Et du coup, au lieu de choisir un devis, ben en fait, je me suis dit, ben, je peux le faire. Donc j'ai codé pendant 4 à 5 mois après. J'ai continué à coder parce qu'après le wagon, c'est quand même une formation pour débutants, hein, faut pas l'oublier. Et il y a une grosse courbe de progression dans les 4 mois
Ouais,
après le
clairement.
wagon. Et je codais tous les jours. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait la traduction du site. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs que pas mal de devs n'auront pas fait. Mais c'était marrant. C'était très chouette. Et je suis arrivé à un vrai produit vendable que j'ai vendu à Criteo en premier. C'était un petit groupe d'une dizaine de personnes. Voilà, c'était bien. C'était sur le vin. Donc le but, c'était de.
Et là, tu as fait un team building.
Là, c'était un team building.
C'est un
Et
team
en
building.
fait, je me suis rendu compte pendant que je faisais l'app que le B2C, ce n'était pas le marché qui m'intéressait. Je voulais faire le truc à distance, envoyer des box de vin et puis que les gens jouent. L'onboarding était trop compliqué. Du coup, j'ai complètement pivoté et j'ai essayé d'attaquer le marché des entreprises et des événements d'entreprise, des séminaires, des team building.
Mais excuse-moi de t'interrompre, mais ça m'intéresse comment
Inadmissible!
comment Criteo comment tu rentres en contact avec Criteo, ton premier client donc.
Je sais même plus comment j'ai contacté Criteo. Je les ai peut-être. Non, ça doit être le pote d'un pote qui a parlé de
Le
moi.
réseau, quoi.
Le réseau, ouais. Puis avec le wagon, c'était bien. Il y avait pas mal de réseaux. Mon deuxième événement, je l'ai fait grâce à Edouard, d'ailleurs, qui connaissait une nana qui travaillait dans un cabinet d'avocats. Et j'ai fait un événement pour une trentaine de personnes. Et là, le truc était lancé parce que. C'était pas un événement fait avec les bouts de chandelle, c'était dans une grosse salle, une très belle salle, Troca, que les gars avaient payé une blinde,
Ah oui.
cabinet d'avocats, où il y avait vraiment un besoin de retour qualitatif sur mon événement, quoi. Il fallait que ça marche bien.
Un peu la pression.
Un peu, ouais, voilà, la pression du truc. Et ça s'est bien passé, donc je suis très très content. Enfin, j'étais très très content à l'époque. Et je travaillais sur le vin. Et la problématique, c'est que team building, vin, c'est des choses qui vont pas forcément bien ensemble parce que le vin peut exclure. Ça va quand on parle de soirée cocktail où tu vas avoir une prestation vin, une animation où tu n'obliges pas les gens à venir. Ils viennent à leur bon gré et ils peuvent passer une partie de la soirée ludique, amusante avec toi. Mais déjà, un, ça ne crée pas les liens. Et deux, ben, les gens qui ne veulent pas, ils ne participent pas.
Les gens qui
Donc,
veulent pas boire,
et ouais. Et il y en avait pas mal. 20 à 25% des gens dans un événement qui ne voulaient pas boire ou
d'accord.
n'avaient pas envie de boire. Donc j'ai fait finalement très peu d'événements sur le vin. Alors que le truc était rodé, le produit était super bien. Et quand les entreprises participaient, enfin, achetaient le produit, achetaient le service, ils étaient super contents. Même ceux qui buvaient pas énormément de vin, quoi, ou qui buvaient pas du tout de vin, ils étaient super contents parce que il y a la passion, parce que il y avait du dynamisme et puis ben, c'était quand même bien cadré, quoi. L'événement était bien rodé.
D'accord. Et du coup, ça a duré combien de temps que tu fasses un peu des événements sur le vin?
Un an. Un an où je me suis acharné à essayer de vendre des événements sur le vin.
Et après, qu'est-ce qui fait que tu bascules sur le chocolat du coup? Parce que bon, là, j'ai un premier élément de réponse dans le sens que oui, comme tu dis, bah, 20-25% des gens qui participaient pas. Cette sensation peut-être de travail pas accompli parce que t'avais peut-être une frustration, je sais pas, tu me dis si par rapport à ça. Mais du coup, toi, tu as passé tous ces diplômes pour apprendre à goûter du vin. Comment tu te dis, ouais, je vais passer au chocolat.
Alors, c'est pas aussi radical que ça
De
en
base, on
fait.
fait pas l'association quand même.
C'est pas aussi radical que ça parce qu'en parallèle de la dégustation de vin, de la création du jeu et des prestations que je pouvais faire avec mes clients, j'ai dégusté du chocolat avec ma fille. Ma fille a 9 ans aujourd'hui, elle en avait 7 quand on a vraiment commencé à déguster du chocolat noir à 7 ans. Ça marche aussi.
C'est bien
Parce
de
qu'en
les
fait, le
habituer.
vin, elle aimait pas trop. On avait testé et elle a du mal à digérer. Donc, le chocolat, c'était bien pour elle. Et au fur et à mesure des dégustations qu'on a faites, je me suis dit, mince, ce jeu-là, je peux l'adapter pour les enfants aussi. Et au départ, c'était un jeu que je voulais faire pour les enfants. Mais pour ma
D'accord.
fille, c'était un jeu avec des petits lapins. C'est le roi des lapins qui partait dans le monde à la recherche de son chocolat fétiche. Donc, il passait par le Guatemala, il passait par le Pérou. Et puis, il est passé par El Dochoco, c'est la cité du chocolat, où il a ramené énormément de chocolat chez lui, dans son royaume. Et il était super heureux. Le problème, c'est que dans son royaume, il a mangé du chocolat, et puis un jour, il ne restait plus que 2 carrés. Donc, il demande à un consultant de l'aider, un petit gourmand, de l'aider à goûter du chocolat et puis à retrouver parmi les pays qu'il a visités, lequel est son chocolat fétiche. Voilà. Donc il y avait cette approche de dégustation et puis avec un truc un peu ludique pour les enfants, quoi. Et ça, je l'ai fait sur papier, je l'avais pas codé. Et ça a bien marché. Et j'ai trouvé que l'idée d'enquête policière à mi-chemin entre, enfin l'événement à mi-chemin entre enquête policière et dégustation de chocolat, ça pouvait marcher. J'ai demandé à des office managers, à des responsables de com. Ils me disaient, trop bien ton idée, j'adore, banco, vas-y, fais-le,
Puis on y va
et
quoi.
puis on y va, quoi. Donc, premier événement que je vends. Je le vends à un gars qui est consultant dans une boîte de consultants et qui voulait faire un événement client avec Total. Voilà. Et lui, il était passionné de bière. Donc voilà, c'est la passion qui a rapproché, qui a dit ah, je veux absolument travailler avec toi, il faut qu'on fasse un truc. Je sais pas quand, mais il faut qu'on le fasse. Et puis 3 mois plus tard, j'avais 50 ou 60 personnes devant moi. Avec des carrés de chocolat et puis je lançais mon premier événement de chococriminologue. Voilà.
D'où la fameuse moustache, c'est à ce moment-là que t'as
Ouais,
laissé pousser la moustache.
parce que les brigades du tigre en chocolat, la moustache d'Hercule du
Alors
Poirot, Clémenceau, tout ça.
vous pouvez pas voir là, mais je vous invite à aller sur LinkedIn pour voir la photo de Dimitri, mais il a une magnifique moustache.
Apparemment, ça fait rire.
Ah oui,
Alors souvent, on me demande
mais...
si elle est vraie ou pas.
Ouais.
Donc je dis, si
Ça se
je vous
voit quand
dis,
même qu'elle est vraie.
si je, je sais pas, non mais c'est, alors dans un événement où je
Ouais,
suis un peu
peut-être.
loin, les gens ils se disent, merde, est-ce qu'il est vrai ou pas? Est-ce qu'il ose mettre une moustache comme ça et la porter au quotidien quand même? Parce que je la porte au quotidien, je l'enlève pas le soir. En fait, je dis, si je vous dis oui, vous allez plaindre ma nana parce que elle me supporte. D'ailleurs, ma chérie, merci beaucoup de me supporter parce que je sais que tu n'aimes pas ça. Et puis si je vous dis qu'elle est fausse, vous allez être super déçus. Donc, en fait, j'essaie de rien dire. Et jusqu'au moment où on tire dessus. Et
Ah
ça, je...
oui, non,
Ouais,
les gens qui se permettent.
y a des irréductibles qui ne croient pas et
Pas dit donc.
qui essayent de tirer dessus.
C'est pas.
Mais voilà, en fait, ce que j'ai trouvé vachement bien dans la formation que j'ai faite au wagon, c'est que je pouvais être vachement flexible et puis itérer, changer. Modifier mon site. Mon site, il a changé 10 000 fois pour essayer d'avoir plus de conversions, plus de trafic.
C'est ça qui est intéressant dans ton parcours, c'est que, alors d'un côté, oui, tu as en effet eu cette approche que tu disais peut-être un peu trop de contrôleur de gestion, mais je pense que la bonne approche aussi a été de te dire, je vais me doter des outils qui vont me permettre d'entreprendre sur du long terme. Tu as quand même passé des vraies formations, tu t'es formé à développer. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'irais pas te vendre comme développeur dans une entreprise qui aurait des exigences qui te feraient passer un test technique et tout ça, mais quoi qu'encore, pour moi rien ne t'en empêche, hein, mais voilà.
C'est pas mon envie première
Mais
en
voilà,
fait,
c'est pas
c'est
ton
ça
envie,
le
mais
truc.
clairement. Mais du coup, tu t'es quand même doté aujourd'hui de ce qu'il te faut, juste pour pouvoir avancer. Et déjà, ça c'est impressionnant. Et je pense que d'ailleurs, le wagon l'a bien compris. Et je pense que c'est un fait intéressant, c'est que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, tout est digital. Tout est digital. Et un patron qui comprend rien à ce qui se passe dans son équipe IT, probablement qu'il va jeter de l'argent par la fenêtre à un moment ou à un autre. Toi, t'as pas fait cette démarche. Je pense que, enfin, je sais pas, peut-être que tu me dis ce que t'en penses, mais est-ce que si t'avais pas appris à faire ça, que t'avais payé, que t'avais eu l'argent, que t'avais voulu mettre l'argent, des devis qu'on t'avait donnés au début, même le moins cher, à mon avis, t'aurais duré moins longtemps.
Ouais, je serais pas en face de toi là, en ce moment. Je pense que j'aurais trouvé autre chose à faire. Peut-être pas dans le salariat, mais j'aurais trouvé autre chose à faire. Mais oui, j'aurais pas monté ce jeu sur le chocolat parce que monter le jeu sur le chocolat, ça veut dire bah, allonger encore 20 000 euros et modifier des trucs. J'étais pas capable de rentrer dans le code. Donc non, c'est la chose la plus judicieuse que j'ai faite, c'est de passer ces formations, apprendre, toujours apprendre. Apprendre, vérifier que on a les bonnes connaissances au bon moment. Parce que le vin, c'était essentiel. Il y avait des termes que je maîtrisais moins. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dégustent et qui se disent, ouais, je sais déguster. Ah, mais non, en fait.
Ouais, non.
Tu sais pas déguster, gars. Mets-toi pendant 5 jours, hein, ne serait-ce que 5 jours dans un banc d'école pour apprendre à déguster, et tu vas voir. Là, tu auras un petit peu plus
Je me demande
de
souvent quelle est
bagages.
la part de snobisme là-dedans de pas mal de gens, parce que moi j'ai toujours cette espèce de situation de malaise quand je suis dans un restaurant où on me fait goûter le vin. Et alors systématiquement déjà c'est à l'homme qu'on propose de goûter. Alors maintenant je dis faites goûter madame à la mienne, pas avec moi. Et mais en dehors de ça, je suis même pas sûr que je saurais dire si un vin est bouchonné. Alors que pourtant j'aime déguster tout ça, mais vu que je pense que j'ai jamais bu un vin bouchonné, je ne sais
Si,
pas quel goût c'est censé
obligé,
avoir. C'est
t'en as
obligé
déjà
d'en
goûté.
aimer.
Ah, obligé, t'en as déjà goûté. Ouais.
Je sais pas si je saurais le reconnaître quoi. Et c'est toujours ce malaise où je me dis bon. Je goûte et oui, j'essaie de un peu sentir bien les arômes et
Bah,
tout, mais
t'imagines la
il est
honte
très
si
bon
tu l'as
quoi.
pas senti et
Mais
que
bien
les autres te
sûr.
disent putain, mais il est tout pété ce gars, il a pas senti le bouchonné.
J'irai jamais faire ça à une table où on est plus
Ah
de deux. Je dirais, non, c'est pas moi qui goûte. C'est hors de question.
Alors la technique, tu la connais, c'est de prendre le deuxième le moins cher, hein, c'est ça?
D'accord.
Voilà.
Le deuxième le moins
Ouais,
cher.
parce que de toute façon, quand tu vas... Alors moi c'est ça, hein, le problème, c'est que quand tu apprends à déguster, quand tu dégustes du chocolat, du vin, en fait, tu prends plus de plaisir à déguster. Peu importe ce que tu dégustes. Mais le problème, c'est que tu prends plus de plaisir à déguster de la bonne qualité, quoi. Moi aujourd'hui, j'adore déguster du bon chocolat, ça me met sur la stratosphère, j'adore. Mais quand j'en mange du mauvais, c'est juste. Puis quand on t'en offre, c'est. Hein? Bah, merci, mais
Ouais.
ça, je suis désolé.
C'est comme la bonne bouffe, hein. Une fois que tu commences à t'habituer à goûter un certain truc, à certains standings, t'es.
C'est dur, ça fait un peu snob d'ailleurs ce que je
Oui,
viens de dire. C'est très snob,
c'est très snob
putain,
ce
ah
qu'on vient de dire,
merde!
mais c'est pas grave. Non, mais c'est
Bon, je
vrai.
suis pas snob, hein. Continuez à m'acheter du chocolat, j'adore quand vous faites ça. Mais
Non,
juste
mais
pas du
pour
Lindt,
le coup,
voilà,
oui,
merci.
là, on a des chocolats devant nous, tous excellents.
Ouais, hein,
Faut que
je
j'en
voudrais
goûte un peu
parler
plus,
du
mais.
chocolat Encuentro qui est très très bon. 70% c'est du Guatemala, on va faire une petite pause dégustation d'ailleurs. Tiens, parce que là en fait on va parler avec du chocolat dans la bouche. Alors la technique c'est de regarder le chocolat, pas de le mettre dans la bouche comme tu viens de faire exactement à l'instant. Et de se dire, ben, ce chocolat est plutôt assez clair. Quand il est assez clair, ça veut dire qu'il n'a pas été très torréfié. C'est une indication qu'on peut identifier quand on a la couleur. Ensuite, on va le casser en deux et on va le sentir. Et puis là, moi, je sens pas mal de choses.
Il est exceptionnel.
Il est très très bon.
Alors moi, vu que je ne sais pas déguster, j'en suis déjà à l'avaler. Mais incroyable.
En fait, ce que j'aime bien, c'est la complexité. Alors, quand on dit complexité, c'est que on sent plusieurs familles d'arômes. Là, il y a des fruits, il y a du végétal, il y a des fleurs. Je sens aussi un petit peu de grillé. Et j'adore, c'est un parfum exceptionnel. On le goûte
J'ai l'impression de
après.
sentir une mangue.
Ouais, fruits exotiques.
Incroyable, il y a carrément, j'ai eu, mais vraiment par rapport à ce que tu dis, trois goûts différents dans la bouche. J'avais jamais connu ça avec un chocolat.
Regarde. Alors, juste derrière, en fait, le chocolatier a noté, nous aimons ces notes très douces et surprenantes de mangue avec une légère acidité. Et l'acidité, c'est vrai qu'on la ressent en bouche. En bouche, j'ai une technique révolutionnaire. que je vais donner aux auditeurs du podcast, qui est la méthode Dark pour la dégustation de chocolat noir. Eh ouais, j'ai aussi des moyens de mémotechnique.
Dark.
Dark, ça veut dire douceur, acidité, amertume, richesse et corps. Alors, pendant les animations, on rentre dans le détail et on a deux chocolats qu'on va comparer et puis on va dire bah, lequel est le plus sucré, le plus doux, lequel est le plus amer, le plus acide. Et j'essaie d'expliquer chacun des termes. Donc, la douceur, c'est le sucre. L'acidité, c'est quand ça fait saliver. L'amertume, il faut penser à de la Guinness ou à des artichauts. Mm-hmm. Ou à du pamplemousse quand on enlève un petit peu le côté sucré. La richesse, c'est le gras. Et le gras, c'est
la vie. La vie.
Le gras, ça va donner un côté un peu une pellicule huileuse sur le palais. Ça va voilà, rajouter...
J'ai l'impression qu'il n'est pas très gras, celui-ci.
Exactement.
Par contre, il y a de l'amertume. Enfin,
un peu plus d'amertume, ouais. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un super équilibre. Ah non, c'est qu'il y a un super équilibre. Et le corps, en fait, c'est le poids du chocolat en bouche. C'est le volume du chocolat en bouche. C'est la différence qu'on va avoir entre du lait écrémé et de la crème. C'est, la crème va être plus pâteuse, la langue va avoir plus de mal à bouger. Le lait écrémé, bah, c'est très aqueux, c'est très liquide.
D'accord. Voilà.
C'est, et en fait, c'est des choses...
Il a plus ou moins de corps quand il... Plus de lait ou moins de lait il n'a pas forcément du lait, mais après...
Alors, le corps, il vient de pas mal de choses, mais principalement du gras. Plus il va y avoir de gras, plus le chocolat va être pâteux, puissant, volumineux.
Okay.
Et là, dans le chocolat qu'on est en train de goûter, désolé, hein, il est très léger parce qu'il n'y a pas de gras, il y a une pointe d'acidité, ça fait saliver, ça fait même penser à des fruits jaunes. C'est vachement intéressant. Et pourquoi il n'y a pas de gras ? Ben parce qu'en fait, ils ne rajoutent pas de beurre de cacao. Il y a ceux qui rajoutent du beurre de cacao et ceux qui ne rajoutent pas de beurre de cacao. Et alors, pour comparer, on va goûter. On coupera en montage hein, si c'est trop long. Hein. T'inquiète.
Hein. On va goûter. Je m'inquiète pas.
Un autre chocolat.
Alors là, cette fois, je n'avale pas.
Chez, on est chez Bonnat. Et là, le chocolat est un peu plus sombre. Si on compare, on n'a pas les deux chocolats l'un à côté de l'autre, mais il est un peu plus sombre, donc on peut se dire il est un peu plus gris, un peu plus torréfié. En arôme, là, déjà, j'ai moins de complexité.
Ouais, je sens bien le chocolat, en fait.
Je sens bien le chocolat. Ouais. Alors, ça, c'est un bon indice que c'est du chocolat qu'on est en train de déguster. Non, mais c'est vrai. En fait, on a souvent une difficulté à mémoriser ou à se souvenir des arômes. Mais ce que j'essaie de dire à chaque fois dans les événements, c'est faites-vous confiance. Si vous sentez le chocolat, c'est déjà bien parti. Et la première chose à se dire, c'est est-ce que je trouve que ça sent bon ? Première étape. Deuxième étape, c'est d'y aller en entonnoir et de regarder un peu les familles. J'ai toujours un PowerPoint, enfin pas un PowerPoint parce que c'est un peu vieillot, mais un prédit. Pour un peu de dynamisme et j'aime bien avoir le côté visuel parce que tout le monde n'est pas sensoriel gustatif, il y a des gens qui sont visuels, qui ont besoin de voir des choses et de s'arrêter sur un support visuel, donc j'aime bien présenter des trucs comme ça et ils voient un entonnoir avec tous les arômes autour, tu as des arômes floraux, des arômes végétaux et des arômes fruités, ça va être plutôt des arômes d'origine du cacao et là j'ai pas l'impression d'en sentir. Et ensuite, tu as les arômes animaux, les arômes grillés.
Un léger, une légère fleur derrière, je ne sais pas trop.
Alors, on va le sentir, mais ça va péter. C'est surtout en bouche, en fait. Donc, on va le goûter. On fait de l'ASMR.
On va surtout donner faim aux auditeurs. Ouais.
C'est très sexuel. Mais alors, c'est à ce moment-là que je suis déçu d'être avec toi. Non, tu comprends. En bouche, les arômes, est-ce qu'on a de la rétro-olfaction ? On peut inspirer par la bouche et expirer par le nez.
Alors et là, pour le coup, il a beaucoup plus de corps, lui.
Ouais, il a beaucoup plus de corps parce qu'il y a la masse de gras. Là, pour comparer, sur le premier, on est à 37% de matière grasse. Sur le deuxième, on est à 46. Et tu vois la différence, on la sent vraiment.
Ah ouais.
Et un chocolat à 42% de matière grasse, tu vas sentir aussi la différence. Tu vas sentir que c'est au milieu. Là, c'est vraiment les deux extrêmes en termes de corps. Là, c'est puissant. C'est gras. C'est pas acide du tout. C'est pas amer. Et d'ailleurs, tu as l'impression que c'est un peu sucré. Mais en fait, c'est pas sucré, c'est moins sucré que le premier.
Ça me fait penser au gâteau, en fait.
Ouais. En fait, moi, c'est le chocolat qui me rappelle mon enfance, parce que quand je me
Quand tu
faisais
as les cheveux
mal,
plats, là.
quand je me faisais mal, je m'égratignais le genou, j'allais voir ma mère, et puis elle me donnait du chocolat. Et en fait, c'est ce goût d'enfance que j'ai, c'est un chocolat de Côte d'Ivoire, qui n'est pas très complexe, qui est très gras, très bon, qui a des arômes de noix de coco. C'est la noix de coco à balle, en fait, dans la bouche. Je sens que ça. Et il y a sur les arômes, il y a aussi le côté, pas persuasion, mais je vais te suggérer des choses. Le pouvoir de suggestion qui fait que, ah mais oui!
Ouais.
Ah, noix de coco! Forcément. Et tu l'as après, en fait.
Ouais, du coup, tu décomposes comme ça
Ouais.
dans tes meet-up avec les salariés qui sont là pour faire un peu de team building.
Ouais, on va repartir sur quelque chose de plus.
Non, t'inquiète.
Non, ce qui est bien, c'est. Alors, mes événements, comment ils se déroulent? Je me présente, je m'appelle Dimitri, je suis chococriminologue. Et en fait, les gens ne sont pas là pour un team building, ils sont là pour un recrutement. Moi, j'ai besoin, pour une de mes enquêtes, de consultants pour m'aider, parce qu'il y a une enquête qui me donne du fil à retordre. J'ai besoin de personnes qui ont un pouvoir pour déguster et des compétences de dégustation. Voilà. Et souvent, j'intègre le fait que le directeur qui a choisi l'animation, ben, il est infiltré chez vous et il a identifié chez vous des capacités sensorielles extraordinaires. Et la première étape, c'est donc le recrutement, un quiz sur le chocolat. Donc il y a 10 questions. Ce qui est bien, c'est que les participants sont réunis en équipe, par équipe de 3 à 5. Sur les grands groupes, c'est 5 personnes. Et ils sont autour d'une tablette numérique. Ils vont répondre aux questions que je pose. Alors ça peut être assez technique, mais c'est marrant quand c'est technique parce que tu sens que les gens ils jouent leur vie.
Un peu l'esprit de compétition qui ressort à
Ouais.
ce moment-là, quoi.
Ouais, mais c'est marrant parce que c'est sain. L'objectif, c'est de prendre des décisions ensemble. Et le meilleur moyen de créer des liens entre des personnes, c'est de leur donner une mission précise. Là, pour le coup, répondre à une question où il y a 4 réponses, c'est assez précis, dans un temps limité. Et on sent le côté limité par le fait que autour il y a des pop parce qu'il y a des gens qui font ouais ou il y a des gens qui font oh non. Ah, il y a un mouvement autour et puis moi je suis toujours là pour rappeler on attend la réponse de telle ou telle équipe et en général ils mettent environ
Parce
une
que toi, tu
minute
as un
pour répondre.
board et tu vois qui de quelle table
Ouais,
a répondu et tout ça, quoi.
ouais, ouais. Ouais, j'ai besoin de suivre pour animer,
Oui,
pour
j'avoue.
savoir vers quelle table, parce que c'est toujours les mêmes tables qui répondent lentement. Et puis après, je demande aux autres qui ont déjà répondu rapidement de deviner la question suivante, parce qu'ils n'ont pas les questions
Sur
sur les
tablette,
tablettes.
tant que tout le monde n'a pas
Bon,
répondu.
bah oui. En fait, l'idée, c'est d'avoir un mouvement de groupe, d'avoir bien conscience qu'on participe tous
Ouais, tous
au
ensemble.
même événement. Et que c'est enfin, ça peut être très fat, ça peut être un gros gros événement. Le plus gros événement, enfin, j'ai eu 2 gros événements. Il y a eu Total et Servier où il y avait 150 personnes. À 150 personnes, il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont moins vite. Puis t'as besoin d'avoir ce moment où tu te dis, waouh, l'événement est gros. On participe tous en même temps à cet événement dont on va se souvenir, qui va faire partie de la mémoire de notre groupe. À 140, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup qui participent à un événement de team building où on déguste du chocolat,
Ouais, clairement.
où on crée des liens, où on s'amuse et où on apprend des choses.
Et en moyenne, ça dure combien de temps à peu près?
Entre 1h30 et 2h. Sur les petits groupes, ça dure un peu plus rapidement parce que il y a un petit peu plus de synchronisation sur chaque équipe. Quand on est 10, bah, les 2 équipes ou les 3 équipes, elles vont répondre plus rapidement que 23, 25 ou 30 équipes.
Ok.
Voilà. Et oui, la deuxième étape, c'est une masterclass de dégustation où je vais présenter la méthode dont j'ai parlé tout à l'heure
Ouais.
et on va déguster 2 chocolats pour les comparer. Et la troisième étape, c'est l'enquête où un chocolat a été retrouvé sur les lieux du crime. C'est l'affaire Pras-Alin.
Qui est une île des Seychelles.
Exactement, ouais, l'île Pras-Alin. Et donc, ce monsieur Alain est mort. Et sur les lieux du crime, une seule trace, un carré de chocolat, que moi et mon équipe, on a dégusté. On a dressé la carte d'identité de ce chocolat. et la police criminelle nous a donné trois suspects auxquels correspondent trois chocolats. Et ces chocolats, les participants vont les déguster, dresser la carte d'identité de chacun et les comparer à celui du crime.
Ok.
Et en fait, c'est là que le côté tablette numérique est vachement intéressant parce qu'il y a de l'interactivité, on connaît les scores en direct. Et puis, tu vas pouvoir comparer graphiquement ce que tu ressens d'un chocolat par rapport à un chocolat du crime. Et c'est super, super intuitif.
À chaque fois, il faut quand même que tu... Alors, moi, je suis... les gens vont se dire, moi, ils se concentrent à fond sur la logistique, mais du coup, à chaque fois, tu es obligé de trouver un endroit où il y a des tablettes qui sont fournies avec...
Non, non, moi, j'ai mes tablettes chez
t'as
moi.
T'as
j'ai
ta propre tablette. T'as une trentaine de tablettes. D'accord.
Ouais, oui, j'ai investi.
Bon investissement de base.
Ouais. Ouais, mais j'ai investi quand ? J'ai investi quand j'avais signé avec un client. Premier gros client avec lequel j'ai signé, c'était Total. C'était il y a un an et demi. Un peu plus d'un an et demi. Ils étaient 140, 150. J'ai acheté 31 tablettes.
De toute façon.
Et c'était financé par l'événement.
À un moment, il faut. Hein, je veux dire. De toute façon, là, ce que disent beaucoup les gens qui entreprennent, c'est déjà trouve ton client et après tu fais tout pour répondre à son besoin.
Ouais, carrément. Et puis bon, là j'avais quand même passé pas mal de temps sur le produit, sur le truc pour me dire ouais, moi
allons-y, quoi.
Ça marche à 50, à 150, c'est bon, on y arrive. Et sur le lieu, en fait, je travaille souvent sur les grands groupes en bout de chaîne où l'office manager ou le responsable de com interne a déjà trouvé un lieu, un hôtel, une salle, et il cherche le côté, la partie ludique qui va durer 2 heures en général.
Ouais.
Et moi, je me greffe sur l'événement. Semaine dernière, j'étais pour le groupe Up qui fait les chèques déjeuner. Ils étaient 115 et on était à l'hôtel Barrière. C'est pas moi qui ai trouvé l'hôtel Barrière à Enghien-les-Bains, c'est eux. Et puis, je me suis greffé sur l'événement. Et c'est cool d'avoir des événements comme ça. Parce que c'est ça aussi que je recherche. J'aime beaucoup les petits événements, le côté un peu intimiste. Mais j'aime bien quand il y a un show, quand il y a de la dynamique. Enfin, c'est vraiment super.
Personnellement, ça fait maintenant... Ça fait depuis 2016 qu'on se connaît. Hein. Parce que moi, t'étais ici en cowork quand j'étais au wagon. Et je te vois plus dans des, dans des événements un peu de show comme ça. Je me souviens que tu nous avais fait faire des dégustations de vin à des repas de groupe de batch le vendredi. C'était très très sympa. Et du coup, ce qui nous amène un peu à la prochaine question. Toi, comment tu vois la suite ? Est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs ?
Alors déjà, la suite, c'est de continuer à pérenniser mon activité parce que le team building, c'est assez cyclique. Tu vas avoir pas mal d'événements novembre, décembre, septembre aussi un peu. Et puis début d'année, et là, ça recommence un peu avril, mai, juin. Tu es entrepreneur, mais tu as aussi une vie privée où il faut ramener un peu d'argent. Donc, il faut essayer d'avoir quelque chose d'un peu lissé sur l'année. Donc, moi, mon objectif, c'est de pérenniser en ayant plus de volume. Donc, les prochaines choses que je vais faire, c'est signer un partenariat avec une agence événementielle. J'ai déjà un contact bien avancé pour avoir une cinquantaine d'événements annuels, ce qui est très cool. Et puis avoir des partenariats avec des lieux haut de gamme parce que mon événement est assez haut de gamme finalement. Personnellement, je l'ai pas testé, je l'ai pas. Enfin, c'était pas fait pour, mais je me rends compte que.
Mais du chocolat, l'image haut de gamme. Hein.
L'image que je donne et l'image du chocolat est quand même très haut de gamme.
Combien de fois on voit en entreprise, quand il y a des consultants qui veulent faire des cadeaux à des clients, qui ramènent une bonne boîte de chocolat qui vaut des fois plus de 100 euros, alors que ça se trouve, tu vas nous dire que c'est pas forcément du bon chocolat.
Mais si.
Mais c'est vrai qu'il y a une vraie image de luxe associée au chocolat, quoi.
C'est d'avoir des hôtels, des lieux de réception qui soient haut de gamme et qui puissent vendre mon animation parce que l'avantage, c'est que je ne suis pas cher. Je suis très flexible, je suis tout seul. Alors j'ai des freelances avec lesquels je travaille sur des gros events. Hein.
D'accord, t'as des gens qui passent entre les tables et tout ça qui.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est sur la dernière étape, l'enquête, où moi, j'interviens plus en one to many, je communique plus à tout le monde. Parce qu'avant, j'ai quand même fait un show pendant à peu près 40-50 minutes. Et pendant l'enquête, j'ai besoin d'aller sur chaque table pour voir si les gens ont compris ou pas. Et donc, tout seul, 30-40 tables, c'est pas possible. Donc, j'ai des freelances avec lesquels je travaille régulièrement et qui aiment le chocolat, que j'ai formé et qui sont très bons animateurs. Je sais plus ce qu'on disait.
Non, mais la suite de tes projets.
La suite de mes projets, donc c'est pérenniser, avoir des partenariats hôtels, lieux de réception et agences événementielles, et aussi de rajouter d'autres cordes à mon arc. Je fais le chocolat, je fais le vin, j'ai aussi travaillé avec un coach de transition qui est certifié en PNL et sur lequel on fait un événement qui s'appelle la Brigade des Profilers. Et la brigade des profilers, l'objectif, c'est de dresser le profil psychologique des suspects.
D'accord.
Et profil psychologique, là, il n'y a pas de dégustation. Hein. C'est toujours le même format
Et toujours
d'enquête.
axé sur le chocolat, du
Non,
coup,
non,
pas du
pas
tout.
axé sur le chocolat. C'est axé sur le développement personnel
Ah,
et sur
ouais.
le profilage. Donc, on parle de Paul Ekman, on parle de pas mal de psychologues, de scientifiques qui ont permis d'aborder le profilage ou le développement personnel. Et on a une méthode qui est la méthode STEPS, qui n'est plus la méthode DARC, mais la
Ok,
méthode
ouais.
STEPS, où l'objectif, c'est de dresser un profil psychologique.
Mais
Donc,
du coup, c'est plus pour du recrutement
non, pas forcément. Là, c'est les événements qu'on a travaillés, c'était pas mal avec des consultants ou des gens qui ont un lien avec des clients.
Ouais, régulièrement, quoi. Donc, c'est pour apprendre un peu à identifier tes clients, voir quels sont leurs blocages, leur fonctionnement et tout ça.
Alors nous, on le fait de manière très bienveillante et l'objectif, c'est pas de manipuler les gens.
Non,
On n'est pas dans la
évidemment.
manipulation, on est dans, voilà, ça existe. Ça existe, on vous donne les billes pour essayer d'identifier qui vous êtes déjà et puis ben, que les gens sont différents. On parle du sens préféré. Chacun a un sens préféré, visuel, auditif, kinesthésique, alors moins souvent gustatif. Mais ouais, on a tous une grille de lecture différente. Moi, je sais que je suis pas auditif, je suis très visuel et je suis assez kinesthésique aussi. Je sais que, par exemple, j'aime pas trop lire. J'ai du mal à lire.
Donc t'es plus audiobook que livre.
Ouais, par exemple.
Ok. Mais pourtant, attends, c'est bizarre, parce que tu viens de dire que t'étais très visuel.
Mais être visuel, justement, les bouquins, c'est pas visuel, c'est
Enfin,
auditif.
quand je
Parce
dis
que.
bizarre, je n'émets pas de jugement quelconque, c'est une façon de parler.
Non, mais je suis de manière générale très bizarre. Mais
On est tous bizarres.
on est tous bizarres d'un autre.
C'est ça.
Mais quand tu as un bouquin, c'est visuel, parce que tu es obligé d'utiliser tes yeux pour lire. Mais la subvocalisation fait qu'en fait, c'est pas visuel,
C'est de l'audio dans ta tête, quoi.
c'est auditif. Et souvent, quand tu as des gens qui ont à leur bureau des inscriptions ou des gros plannings avec des trucs écrits en tout petit, souvent, c'est des auditifs. Les visuels, eux, auront des cadres photos, des photos géantes, des peintures très figuratives ou même un design très joli. Les kinesthésiques, eux, ils vont avoir des chaises très ergonomiques pour être très bien. Ils auront tout à portée de main. Tout très organisé pour qu'il n'ait pas à se déplacer énormément. Voilà. En fait, chacun va avoir une façon de bouger, une façon d'analyser les situations différentes. Et en fait, c'est ce genre de choses qu'on apprend. On apprend d'autres choses. Il y a la similitude différence. Quand tu as une situation, est-ce que tu vas voir la similitude ou la différence? Tu as trois carrés de chocolat noir et un carré de chocolat blanc. Qu'est-ce que tu vas voir? Est-ce que tu vas voir qu'il y en a un qui est blanc et les autres noirs, ou est-ce que tu vas voir que tous sont des carrés de chocolat? C'est similitude, différence. la posture de stress. Chacun a une manière différente de réagir au stress. Il y en a qui vont être blâmeurs accusateurs, qui vont pointer le doigt et qui vont dire non, c'est pas moi, c'est toi qui as fait la connerie. Il y en a qui vont être supplicateurs, qui vont dire non, je suis désolé, franchement, c'est pas de ma faute. Il y en a qui vont supplier. Il y en a qui vont être niveleurs, qui vont dire bah ouais, je comprends ton point de vue, mais il faut bien comprendre que bah, dans cette situation-là, il y en a d'autres qui réagiront autrement.
Non, mais
Ouais,
ça,
tu vois.
c'est tout ce que tu abordes. Je pense que, en fait, je conçois pas aujourd'hui, et c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal avec ça. On est en 2019, je trouve qu'on est vraiment dans une ère de l'information comme on n'a jamais connu. On est surchargé d'infos, même beaucoup trop. Je trouve ça incroyable que les managers, de façon générale, les chefs d'entreprise et tout ça, ne se forment pas à la PNL. Ça devrait être un prérequis. C'est qu'aujourd'hui, et on s'en aperçoit beaucoup plus, heureusement, comme tout, ça prend du temps, comme l'humanité aime prendre son temps pour avancer sur les sujets, mais apprendre que déjà un bon manager, c'est quelqu'un qui est au service du bien-être de ses salariés, enfin de son équipe ou de ses salariés ou autres, c'est déjà la base, et ensuite apprendre à les comprendre. Et c'est le deuxième point vital, quoi. C'est comme tu le dis. En effet, il ne faut pas le penser question manipulation. Il y en a, ils vont le penser comme ça. C'est pas l'approche. Moi aujourd'hui, je fais du consulting et du coaching. Clairement, si je pouvais pas, si j'arrivais pas à identifier les problématiques chez les gens, de voir leur façon de penser qui est plutôt comme ça. Moi, je me focalise aussi pas mal sur la façon de communiquer. Une personne qui est plutôt communication globale ou dans le détail. Ce qui fait que souvent, ça cause des problèmes au sein même des équipes parce qu'ils disent la même chose, mais ils n'arrivent pas à se comprendre. Et ça, comme moi, je travaille avec beaucoup d'équipes, souvent, j'essaie de leur pointer du doigt un peu. Vous voyez, il y a deux façons de communiquer, mais sans dire qui communique comment. Mais juste, voilà, il y a deux façons de communiquer principales dans la société. Des fois, ça peut causer des mésententes et tout ça. Comment on peut éviter de faire en sorte d'avoir une approche positive pour éviter ce genre de soucis, quoi. Et donc, non, mais clairement, ce que tu proposes là est hyper intéressant.
C'est ça qui me pousse à proposer ce genre d'animation, c'est la passion. C'est la passion d'aider les gens, d'apporter du lien, de créer du sens, ou d'apporter du sens et de créer du lien, si tu veux. Mais c'est vraiment ça qui me motive. Et tu parlais de taille de découpage, détail ou global, ça fait partie de ce qu'on aborde pendant l'animation. Donc voilà, d'autres produits, d'autres services. Donc la brigade des profilers. Et puis travailler aussi sur d'autres choses. Toujours sur la dégustation, parce que c'est ça qui m'intéresse. Peut-être sur la bière, qui peut intéresser des lieux où il est servi de la bière ou des trucs comme ça. Et puis les parfums aussi. Mais là, je l'envisage un peu différemment. Parce que le chocolat, c'est mon dada. Mais la bière, je ne suis pas sûr d'avoir envie de m'investir dans la dégustation à fond de bière. Je sais que je vais aimer, mais l'apprentissage est long quand même. Moi, j'ai mis 6 gros mois avant de savoir déguster un chocolat. Donc, t'imagines un peu l'approche que. Parce que je veux être. Quand je vais sur quelque chose, je veux y être à fond et je veux être
Apporter de
le
la qualité,
meilleur.
quoi.
Enfin, apporter de la qualité. Ouais, si je suis pas le meilleur, autant. Enfin, je veux être un très 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 bon dégustateur. Du coup, si je mets mon énergie sur le chocolat, je sais pas si je vais réussir à le faire sur la bière ou sur d'autres choses. C'est pour ça que ce que j'aimerais, c'est trouver des personnes qui sont spécialistes de la bière ou qui ont envie de le devenir, monter le jeu avec eux et puis le proposer au lieu en sorte de marque blanche pour qu'ils le proposent à leurs clients et d'avoir un fee. Moi, mon modèle économique, ce serait d'avoir un fee à chaque fois qu'ils ont une animation. Que ce soit sur le parfum, parce que je ne suis pas né, je ne suis pas parfumeur, sur la bière, ça pourrait être sympa. Voilà les
Ouais,
perspectives.
intéressant. J'espère que je te souhaite le meilleur pour tout ça. On va rentrer dans la partie un peu plus personnelle. Toi, quel conseil tu donnerais à une personne qui a envie de lancer sa boîte, mais qui hésite, qui se demande s'il a les fonds ou autre, enfin, peu importe la situation, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer sa boîte?
À chaque situation est différente. Je peux pas te dire. Bah, vas-y, fonce!
Il y a un truc que t'aurais voulu qu'on te dise avant de
Euh,
commencer.
euh, et en fait, le truc, c'est que 10, enfin, 5, 4, 5 ans après, je me dis, punaise, si je revenais en arrière, je ferais les choses tellement plus vite. Et puis chaque jour, hein, je me dis ça. Je sais pas, de lever les barrières. Il y a pas mal de barrières psychologiques qui m'empêchent d'avancer. À chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau, quand il n'y a pas de formation, ben, j'ai du mal à avancer. Par exemple, on nous dit, ah, il faut faire du contenu sur ton site, faut faire des trucs. Ben, oui, mais moi, je ne sais pas faire. J'aime bien parler, j'aime bien écrire, je fais du contenu quand je suis en animation. Mais faire du contenu sur ton site et puis le faire de manière stratégique pour ben, que ça apparaisse dans les résultats, parce que il faut que ce soit
Est-ce que tu filmes tes
efficace.
événements?
Alors j'en ai filmé un, mais j'ai fait une. En fait, le but c'était de faire une petite animation de promotion. J'ai mis sur YouTube, et à chaque fois qu'il y a un client qui est intéressé ou un contact, je lui envoie la vidéo, et ça donne vraiment l'atmosphère, et les gens qui ont vu la vidéo, ben, en général, signent. Donc c'est bien.
Ça pourrait être une des pistes pour toi de filmer de façon régulière tes interventions, inclure ça dans tes contrats, et puis voilà quoi, pouvoir.
C'est une bonne idée. Mais si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, c'est y a plusieurs choses qui doivent se réunir. C'est ne pas mettre en danger ta famille, déjà. Moi, je suis parti, mais ma chérie avait son salaire. Alors moi, j'étais avec ma chérie. On a deux enfants, un que j'ai eu pendant le wagon d'ailleurs. C'était pas de tout repos, mais on est heureux. Donc ouais, pas partir, se mettre en danger financier, ça sert à rien. Et puis moi, je suis parti pour la passion. Donc s'il y a quelque chose qui te passionne, vas-y, fonce.
Après, par rapport à ce que tu dis, là-dessus en France, on a quand même la chance, c'est d'avoir un système, surtout, sans faire de politique, mais Macron a vachement augmenté a vachement poussé dans ce sens-là aujourd'hui. Il fait tout pour que quand tu entreprends, tu puisses maintenir tes allocations au chômage et du coup avoir un certain matelas pendant que tu te fais une trésorerie et que tu te bâtis un certain répertoire client, quoi.
Ah ouais, c'est clair que s'il n'y avait pas eu Pôle emploi, je ne me serais pas lancé. C'est obligé. Enfin, dire 3 ans, 2 ou 3 ans, je sais plus.
C'est 2 ans, je crois.
2 ans, 2 ans, tu as des allocations chômage qui payent le loyer et qui fait que tu ne te soucies pas des finances et que tu peux ne pas gagner grand-chose à côté. Voilà. Bon, c'est peut-être aussi le risque, c'est de se dire, ah, j'ai eu le
Ouais,
temps,
j'ai le temps.
et de pas dire, bah, il faut que je ship, il faut que je vende, il faut que ça t'empêche un peu des fois d'avoir la niaque. Aujourd'hui, je l'ai plus que pendant mes 2 ans d'allocation.
La deuxième partie, ce que tu disais, se lancer, c'est vrai que c'est le premier conseil à donner aux gens. D'un moment, il faut y aller, quoi. Il y a toujours cette peur, il y aura toujours un truc qui sera jamais parfait. Et ouais, toi-même, tu le disais, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer, mais en gros, ouais, à un moment, en fait, tu le sens au fond de toi, et puis il faut y aller, quoi. Et
Ouais,
même
faut y aller.
si la société entière n'est pas faite, elle te crie un peu, nos jours, n'y va pas parce que c'est dangereux, sécurité, sécurité. Des fois, il faut savoir prendre un petit peu de risque pour sortir de sa zone de confort, pour réussir à faire quelque chose.
Moi, je me suis toujours dit que j'avais peur de l'échec. Mais à rien tenter,
Mais en fait, ça
tu n'auras pas d'échec, en fait.
Alors, c'est vrai que c'est très global au monde, mais en France particulièrement, on a un vrai problème avec l'échec. Il n'y a pas une culture de l'échec en fait comme il devrait y avoir. C'est-à-dire que le meilleur moyen de progresser, c'est de faire des erreurs, quoi. Je crois que le fondateur de Dyson, quand il a créé son aspirateur, je crois qu'il a fait plus de 500 prototypes avant d'arriver au modèle parfait, quoi. Et à chaque fois, chaque prototype était une erreur et il avançait, il apprenait de ses erreurs, il récupérait les données et boum. Alors le but c'est pas de faire des erreurs inconsciemment et n'en tirer aucune leçon. Le but c'est vraiment de y aller, faire des erreurs, apprendre de ses erreurs et avancer quoi. Et en France, c'est vrai que on a peur de ça, c'est l'échec est mal vu. Mais d'ailleurs, on le voit avec le système de notation, on t'apprend ça dès l'école, en classe et tout. Alors c'est un débat autre, mais en gros, vraiment, on te fait tout pour te faire comprendre que si cette façon ne te va pas, et bah, au lieu d'aller apprendre tes erreurs, c'est juste que t'es mauvais, quoi. Et non, c'est pas comme ça que ça doit
Il y
fonctionner.
a un conseil que je peux donner parce que c'est vrai. C'est bien de faire un produit, de le bichonner, de le rendre parfait, de la perfectitude extrême. Mais si tu ne le confrontes pas à la réalité, ton produit, il vaut rien.
Clairement.
Et moi,
Il
le produit que j'avais en tête quand j'ai commencé, il est à 10 000 lieues de ce que je fais aujourd'hui.
Ils appellent ça le reality check,
Ouais,
je crois,
mais
aux
c'est
États-Unis.
essentiel. Donc si j'ai un seul conseil à donner, c'est tester vos produits, même quand vous ne les avez pas faits. Vendez-les. C'est quelque chose que je pensais que jamais je dirais quand j'ai commencé, mais c'est la base, la base.
Clairement. De toute façon, c'est le principe des sprint design, de l'agilité du lean startup, lean management, c'est itérer hyper vite, faire un produit MVP minimum et puis voir ce que ça donne, le mettre devant les users, le mettre à l'épreuve et puis voilà quoi. Et puis on voit après. C'est ça qui est bien. Et ok, en tout cas, merci pour ces conseils.
Si j'en ai à donner, c'est bien.
Non, mais je pense qu'avec l'expérience, on a tous. Des fois, je me pose la question, qu'est-ce que ça donnerait si on avait la chance, imagine, de pouvoir transmettre nos expériences via notre ADN, quoi. C'est-à-dire que tes enfants, quand ils naissent, à un certain âge, ils ont accès à la connaissance que toi, tu as accumulée.
On load
Au moment de la
comme Néo.
conception, c'est génial. Je me dis, on serait une espèce beaucoup plus sage peut-être, parce qu'on n'aurait pas à réapprendre tout depuis le début, mais puis on a cette tendance, quand on est jeune, à remettre en cause ce que les plus vieux nous disent, mais...
Ah ouais, pour que ça rentre, punaise, mon fils là, 3 ans, je peux te dire, c'est compliqué, hein. Faut répéter, 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 répéter.
Mais il a besoin de faire ses erreurs peut-être,
Ah ouais, tu
et voilà
m'étonnes.
quoi. Mais du
Ah
coup, c'est ça,
ouais.
hein. Clairement.
Petit con.
Ça, on coupera.
On coupera? Ah non, merde!
Je mettrai un bip.
Ouais, t'as pas besoin, c'est un podcast, c'est bon, t'es pas sur France 2.
Voilà. Est-ce que tu as une citation favorite?
Waouh, j'ai pas prévu ça.
Je sais pas, est-ce que tu as une citation
Citation pas
favorite?
favorite.
Ah putain.
Ou un livre favori si tu
Non,
veux?
non, ça va être nul. Ça va être tellement nul. Donc non, je préfère même
Qui a dit
pas.
qu'elle devait être bien?
Aide-toi, le ciel t'aidera. Oh, c'est pourri. Non, c'est le seul truc qui me vient, mais c'est même pas. Non, non, mais il y a pas mal de bouquins que j'aime bien et qu'il me faut avancer tous les jours.
Si tu devais offrir un bouquin.
Alors, pour le développement personnel, j'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup. Il y en a deux que j'ai en tête. Il y a Marshall Rosenberg, c'est les fenêtres. Non, les. Pouf! Hein? Ah.
Je ne le
Non,
mérite pas.
Marshall Rosenberg, c'est celui qui a créé la communication non violente, qui permet en fait, normalement quand tu as ouvert tous tes chakras, de parler à tes gosses sans crier et de manière très bienveillante et à exprimer tes besoins et à comprendre les siens, à échanger. En fait, la communication non violente, c'est juste une tuerie. Mais entre la théorie et la pratique, il y a deux mondes. Donc son bouquin est génial. Maintenant, il faut que j'arrive à le mettre en pratique parce que le matin, c'est juste Putain, les gamins, on se réveille! Ouais, c'est plutôt comme ça.
Ah ouais, c'est très dur. Hein. De toute
Ouais.
façon, j'ai lu une statistique intéressante il y a peu de temps. Alors, je crois que c'était une pub, mais c'est très probablement vrai. C'était une pub pour une app, mais en gros, il te disait que quand tu lis un livre, dans les premières 24 heures, tu oublies 30% du bouquin. Dans les 3 jours qui suivent, tu en as oublié 70. Et dans la semaine qui suit, tu as oublié 90% de ce que tu as lu. Et voilà, l'objectif de l'application, c'était d'apprendre une méthodologie pour éviter ça, mais
Très bonne transition vers mon deuxième bouquin, parce que j'en ai trois.
vas-y.
Mon deuxième bouquin, c'est Tony Buzan, Une tête bien faite. Et en fait,
D'accord.
c'est un bouquin qui te donne des techniques pour apprendre à apprendre.
D'accord.
Et donc, cette technique du
Comment
je vais mettre une notification, parce que là, je viens d'apprendre un truc, mais j'ai envie de m'en souvenir. Donc, notification dans 24 heures, je veux relire ça. Et puis, dans 24 heures, tu as une autre notification dans une semaine. Et dans une semaine, dans un mois, et dans un mois, dans 3 mois. Et puis, normalement, au bout de ce cycle, eh ben, cette connaissance, elle sera jamais gravée dans ta mémoire. Donc il y a aussi des techniques de mémorisation qui donnent dans ce bouquin, des techniques de lecture rapide, toutes ces données, toutes ces petites choses qui peuvent te permettre d'avancer, d'apprendre plus vite et puis surtout de te souvenir de ce que tu apprends, c'est juste génial. Et le troisième bouquin, c'est un bouquin de Robert Cialdini qui s'appelle Influence. Alors, en français, c'est Influence et Manipulation. Je ne suis pas très d'accord avec le côté manipulation parce que c'est un côté un peu péjoratif en français, ouais, qu'il n'y a pas en anglais. Et c'est influence qui te permet de comprendre que en communication, tu peux avoir une influence et puis tu peux adapter ta communication en fonction de la personne que tu as en face. Il y a des principes de réciprocité, il y a des principes vachement intéressants qui, et en fait c'est un bouquin qui m'a mis une grosse claque.
Ah mais ça c'est intéressant parce que faudra peut-être que je le lise parce que c'est un débat que j'ai souvent. Pour moi il y a deux façons de faire du consulting ou du coaching. Il y a la façon où tu vas dans le sens de ton client systématiquement et tu t'adaptes à lui. Et moi j'ai plutôt tendance à prendre l'autre approche
qui est pas... un gros doigt.
Non mais de la transparence avant tout quoi. Ouais. C'est-à-dire que je vais pas hésiter à pointer du doigt un problème même si ça doit heurter des sensibilités.
Et le tout est d'arriver à le communiquer de manière bienveillante.
Il faut réussir à le communiquer de façon non violente.
Parce que le but c'est qu'il applique ce que tu lui dis.
Et qu'il se vexe pas.
Ouais c'est ça.
Mais c'est vrai que Je trouve que aller trop dans l'autre sens aussi, ça aide pas le client parce que non. Des fois il se rend pas compte.
Oui, mais tu vends. Non, j'égale.
Voilà, mais d'un côté, mais c'est ça, mais c'est exactement le problème. On est dans toute la problématique.
Et c'est le principe que toutes les grosses boîtes de consulting appliquent. C'est ok, et tu fais ce que le client veut, ok.
C'est ça. Moi, ça me gêne. Je préfère essayer le plus possible d'être, on va dire, dans le politiquement correct quand je vais dire une chose à un client, lui faire comprendre, trouver des métaphores pour lui faire comprendre ce qui ne va pas forcément dans le truc ou ce qu'il faut améliorer. Mais toujours dans la transparence, quoi. Ça, quand quelque chose ne va pas, ça ne va pas. Il y a pas longtemps, j'ai eu des clients au sein de l'équipe, il y avait le métier qui avait une façon de s'exprimer hyper agressive avec l'équipe informatique et il fallait le dire. Et en fait, à un moment, je me suis dit, il faut y aller, quoi. Ça va peut-être pas plaire à certaines personnes de leur dire que leur communication est archi-violente, mais il faut
D'ailleurs, dire, c'est quoi. Violent de dire ça. C'est ça le plus difficile.
C'est comment dire à une personne que sa communication est archi-violente sans utiliser ces mots-là. Mais ok, très intéressant. Je les mettrai les trois livres en lien dans la description de l'épisode. Et voilà. Dimitri, merci.
Merci.
C'était un plaisir de te recevoir.
Ouais.
Et puis, écoute, bonne continuation pour tes aventures de choco-criminologue et puis pour tout le reste.
J'ai l'impression d'avoir pris un petit café avec un pote, comme d'hab.
C'était cool, c'était super cool. Et puis, à bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'était le premier épisode de Leviosa Podcast. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. J'attends vos retours sur Twitter. Je vous mettrai mon profil dans la description. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Leviosa. Ciao, ciao.